Chapitre 17. Depuis que j'essaie de faire des films, j'ai pris l'habitude d'achever l'écriture de mes scénarios dans la maison de mon enfance, dans la chambre que j'y ai occupée sous le toit et que mon père avait recouverte de lambris de sapin quand j'avais 12 ans, pour lui donner, à ma demande, l'allure d'une chambre de chalet ou de refuge de haute montagne. Un seul vasistas y apporte une maigre lumière qui tombe sur le lit. Le bureau est en bois, lui aussi, vissé dans un angle du mur. En soulevant le vasistas, je pouvais, au prix d'une petite acrobatie, me hisser sur le toit les soirs d'été. J'ai fumé là mes premières cigarettes en rêvant d'escalade. Je regardais le ciel, j'écoutais le chant des grenouilles qui montaient d'une mare située en contrebas des jardins que cultivaient mes parents. Ma vie future me paraissait aussi étendue que la Voie lactée. Chaque point luminescent figurant une journée de cette vie, les plus brillants témoignant des plus intenses et des plus inattendus des jours à venir. Les parfums de foin et de bête que le vent apportait m'enivraient légèrement, à moins que ce fût ce premier tabac mentholé que je fumais en douce. J'étais heureux. J'attendais que tout commence. Je suis un mauvais fils. Ma mère n'est pas morte et je ne la visite que rarement. Si j'écris qu'elle n'est pas morte, c'est que je ne me résous pas à écrire qu'elle est vivante. Elle l'est à peine, ou différemment, sur un mode qui n'est pas celui que connaissent la plupart des êtres humains. Son corps survit sur une chaise roulante dans la maison de retraite de la petite ville où nous avons vécu. On l'y installe après l'avoir lavée, extraite de son lit, habillée. On la pousse dans une salle commune où elle se mêle à d'autres chaises roulantes dans lesquelles sont assises des femmes et des hommes aussi muets et recroquevillés qu'elle, aux cheveux clairsemés devenus incoiffables, dont les regards noyés fixent éternellement le sol et les bouches rétrécies bavent un peu, qu'on nourrit de soupe claire et de purée, de flan et de yaourt à la cuillère, comme de très vieux corps enfantins. Parfois, l'un d'eux émet un cri bref, qui en provoque un deuxième chez un autre pensionnaire et un troisième chez un autre encore, ainsi de suite, et on a soudain l'impression d'être dans la ménagerie d'un jardin des plantes abandonné, sous la verrière de laquelle quelques animaux, presque centenaires, appartenant à une espèce qu'on croyait disparue, manifestent de façon brève et déchirante leur existence oubliée. À chacune de mes visites, je ne peux rester longtemps auprès de ma mère. Quand je la regarde, je vois l'esquisse malhabile qu'un rapin aurait pu faire d'elle, se trompant sur ses traits, les proportions de son corps, la ligne de sa silhouette, la morphologie de son visage. Sa mâchoire, avec le temps, a conquis tout le territoire. Elle règne en maîtresse anguleuse et énorme, reléguant les yeux qu'elle avait si vifs et si jolis, les sourcils, le front, le nez, dans un arrière-plan très secondaire, où ils ont fini par se dessécher et s'effondrer sur eux-mêmes. Son cerveau, même s'il ne fonctionne plus, paraît peser considérablement et entraîner tout le crâne et le corps vers l'avant, dans une chute qui pourtant n'a pas lieu, puisque le personnel attache à leur chaise roulante ma mère et ses semblables, avec des sangles de sécurité qui soulignent la maigreur de leur corps, sa disparition progressive, son effacement. Elle, qui était une grande et grosse femme, ressemble désormais à une petite chose de chiffon, confondue, rabougrie, friable et toujours fiévreuse, tremblotante aussi, comme les oisillons glabres que je découvrais au printemps dans les nids, à la peau si transparente que je pouvais suivre sous sa rougeur luisante l'entier système vasculaire et dont la tête énorme, poinçonnée de 2 yeux encore aveugles sous les paupières soudées, dodeliné sur le cou maigre, trop faible pour supporter longtemps son poids et qui ouvrait un bec jaune, démesuré, quand il percevait ma présence tout en piaillant faiblement. Je m'assieds près d'elle. Je prends une de ses mains dans les miennes comme un rameau de chair brûlante que je caresse tout en lui parlant, me forçant à mener une fausse conversation dont je sens bien qu'elle ne perçoit aucun élément, racontant un peu ma vie, le temps qu'il fait, les changements que j'ai pu constater dans la petite ville, mais ma voix vite se grippe et décline comme le volume d'un poste de radio dont soudain les piles flanchent. Je finis par me taire. Nous nous taisons côte à côte. Je me fais honte en calculant les minutes qui viennent de s'écouler. Je regarde ma montre. Le temps d'ici n'est pas le temps du dehors. Il possède une viscosité qui englue chaque seconde, qui conglomère les heures en de lourds amas d'une densité peu terrestre. Je me dis qu'il faut que je reste encore, par décence. Je me dis qu'elle est ma mère et que je suis son fils, même si nous appartenons désormais chacun à des espaces qui ne se rencontrent plus. Qu'elle occupe un monde dont j'ignore tout, dans lequel je ne sais pas si la souffrance, la douleur, le plaisir, les rêves, les souvenirs, le temps existent, et qu'elle-même ne sait plus rien du mien, ne peut aucunement comprendre ce que j'éprouve, ce que je ressens, ni quelle est mon existence. Toute sa vie est concentrée dans le battement rapide du sang dans les veines, qui désormais paraissent vouloir s'affranchir de son corps, en sortir comme en témoigne leur émergence sous sa peau, ce qui rend noueuse la surface de ses bras, comme si un réseau de racines y était subitement apparu, bleue ou violette selon les endroits, parfois marbrée d'étendues sombres, mauves ou noirâtres, souvenir d'hémorragies minuscules dues aux anticoagulants. Il y a le souffle aussi, mesuré, d'une amplitude minimale, dont chaque inspiration paraît provoquer un effort souffrant, dont chaque expiration semble la dernière, aux rauques allures de râle, les deux mouvements étant séparés par une suspension infinie, une apnée qui me paraît interminable, mais qui n'est pas encore la mort. Elena m'a accompagné à la gare. Nous avons joué sur le quai la scène des gens qui s'aiment et se séparent. Elena n'a pas joué, bien sûr. Elle n'a pas à faire semblant. Moi non plus, je n'ai pas fait semblant, mais toujours il semble que derrière mon épaule, un autre moi-même, désabusé, moqueur, empoisonné d'ironie, me cadre et se moque. Je n'ai, dans aucun de mes films, tourné dans une gare, et n'ai donc jamais filmé un couple qui se dit au revoir, qui se sépare pour une semaine ou pour toujours. Sans doute parce que cette scène encombre des milliers de films et qu'elle a fini par ne plus rien dire, par ne plus signifier autre chose que ce qu'elle montre. Sans doute, plus vraisemblablement, parce que je ne saurais pas le filmer. Je ne pourrais que reproduire ce qui a été fait par bien d'autres avant moi. Or, j'ai besoin de croire que ce que je fais n'a jamais été fait, en tout cas de la façon dont je le fais, même si cela n'est pas vrai. Comment durer, sinon ? J'ai trouvé très belle la façon dont Elena a progressivement disparu quand le train s'est mis en marche. Comment elle est sortie du cadre alors qu'elle était immobile, que son corps paraissait faire partie de la dureté matérielle du quai, et que seul son bras droit s'est levé, qu'elle a porté sa main à ses lèvres et m'a envoyé un baiser que je n'ai pu recevoir qu'à demi, car le bord du cadre en effaça l'autre moitié. Mais sont apparues presque immédiatement, grâce au travelling qui continuait, d'autres femmes et même des hommes qui, eux aussi, envoyaient des baisers ou agitaient des mains, dispensaient des au revoir contrariés ou joyeux, dont je recevais des fragments, alors que, bien entendu, je n'en étais pas le destinataire, sans que jamais je ne puisse voir le visage de celles et de ceux auxquels ils étaient réellement destinés, moi qui étais pourtant dans le même lieu qu'eux, un lieu détaché, qui prenait de la vitesse, nous emportait, nous séparait mécaniquement de ceux que nous aimions, et dans lequel bientôt, après 10 ou 15 minutes, la plupart des voyageurs allaient s'endormir, comme si la compagnie des chemins de fer, en plus de transporter des êtres humains, avait charge aussi de les plonger dans un profond sommeil. Je dors dans la chambre d'enfance. Je prends mes repas dans la cuisine d'enfance. Je relis et corrige le scénario de La fabrique intérieure. Je passe voir ma mère en fin d'après-midi. J'appelle Elena le soir, longuement. Il me semble la voir étendue sur le lit, en short de pyjama et en débardeur. Elle met la dernière main à sa thèse, qu'elle doit soutenir dans quelques mois. Nous ne sommes plus que deux voix sans corps. Je me demande ce que serait le monde si les humains étaient réduits à leur voix, si tous les corps disparaissaient d'un coup et qu'il ne resta plus que les voix. En serions-nous meilleurs ? À la fin de nos conversations, Elena me dit qu'elle m'embrasse et elle imite le bruit des baisers qui me parviennent déformés par la mauvaise qualité de mon téléphone que je rechigne à changer. Car il contient encore, comme un vieux cerveau épuisé, tous les messages de gêne. J'ai l'impression que les baisers d'Elena sont contraints de transpercer des parois de verre pour m'atteindre, que leur douceur en est affectée, ou que quelqu'un s'escrime en distordant leur son délicat à les rendre grotesques et ridicules, mais ils n'y arrivent pas. Ces baisers me trouvent et me touchent. Je devrais plutôt écrire que je me surprends à être touché par eux. Le plus troublant est que je mène ces conversations du soir dans ma chambre, allongée sur mon lit d'enfance, et que tandis que j'écoute Elena, que je lui parle, je ne sais plus très bien dans quel moment de ma vie je suis, tant le lieu est fortement attaché à ces années lointaines. Et c'est non seulement moi qui reçois les baisers d'Elena, mais aussi le garçon de 12 ans, qui n'avait encore jamais embrassé une fille, qui en rêvait comme un lointain impossible à atteindre. Alors, Elena, dans un curieux trouble du temps, devient ma première amoureuse. Chaque matin, ici comme ailleurs, je me réveille après avoir fait le même rêve, et cela depuis des années. Je crois que cela a commencé il y a 10 ans environ, sans raison. Je suis dans un lieu indéterminé, dans un décor sans décor. Je tiens dans une main un revolver. Très vite, sans réfléchir, je glisse le canon dans ma bouche et tire. Il y a parfois quelques variantes. J'applique le canon sur une de mes tempes ou sous mon menton. Le protocole peut être aussi différent. Il arrive que je me pende, que je me jette dans le vide, que je m'égorge, que je me jette sous un train ou un camion lancé à vive allure. Ce rêve de suicide violent est quotidien. Je me suicide et je me réveille. Je me réveille après la détonation, mais avant que la balle ne me fracasse le crâne. La journée peut enfin commencer. Ce n'est jamais effrayant ou tragique, ce n'est pas un cauchemar, c'est une mise en route. C'est la vie.